d'une manière générale aux Antilles, on est soumis à quasiment tous les risques naturels. Et donc, on essaye autant que faire se peut d'en tenir compte dans la façon de construire.
Il faut faire le grand saut, partir dans une modernité, une cohérence des choses, tout en se remettant dans le droit chemin de la bonne pratique et du bon sens. Le bon sens, ce qu'on a eu tendance à perdre.
On est sur une île touristique, donc si on nous enlève la partie attrayante de notre tourisme, qu'allons-nous faire et comment allons-nous faire ?
L'une est l'île des milliardaires, l'autre île est un peu plus modeste, quoique de plus grande taille. Les constructions sauvages y fleurissent parfois avec leurs toits en tôle et leurs murs mal étayés. Si différents soient-ils ces deux confettis français perdus à quelques 250 km de la Guadeloupe, ont été frappés par le même cataclysme dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier. Ravagés par Irma, un ouragan de catégorie 5 dont les vents ont soufflé en rafale à 400 km/h, du jamais vu tout simplement. L'île de Saint-Martin a été la plus meurtrie des deux. Pour donner quelques chiffres, 95% des édifices y sont endommagés, 30% totalement détruits. 4000 voitures, soit 90% du parc automobile, sont devenues des épaves, sans parler de la nature, broyée littéralement, qui reprend peu à peu ses droits. Dans ces circonstances, le gouvernement a fait une promesse ambitieuse, mener à Saint-Martin une reconstruction exemplaire et durable. Mais comment imposer aux Saint-Martinois, qui ont parfois tout perdu, d'attendre que l'État ait rédigé sa nouvelle carte des aléas et son nouveau plan de prévention des risques naturels, d'attendre que la collectivité territoriale sur place ait rédigé un nouveau plan local d'urbanisme, quand on sait de surcroît que le dernier plus en 2015 a été massivement rejeté par la population, avec des grèves à Marigot pour protester contre des zones inconstructibles que les gens auraient voulu aménager. La gageure est de taille dans ce petit territoire français frappé par un chômage de plus de 30%, où le secteur du tourisme mettra du temps à retrouver toute sa superbe. Reconstruire Saint-Martin, les leçons d'Irma, c'est un reportage signé Véronique Robérotte. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes en compagnie de Philippe Gustin. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes préfet et vous êtes le délégué interministériel chargé de la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, juste nommé juste après la catastrophe pour coordonner donc les efforts de l'État dans ces deux îles. Et nous sommes avec Véronique Robérotte. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Vous rentrez de Saint-Martin deux mois après. Est-ce que les gens sur place sont prêts déjà, Véronique, à penser à la reconstruction ?
Alors c'est vrai que c'est un peu prématuré de parler de reconstruction à la grande majorité des Saint-Martinois qui en sont encore à déblayer, à nettoyer, à se battre aussi avec les assurances quand ils sont assurés. Il y a aussi tous ceux, 7000 personnes hein, environ, qui ont quitté l'île après Irma pour se mettre à l'abri des réfugiés climatiques, hein, comme on les appelle parfois, dont la plupart sont déjà ou rentreront hein, plus tard à Saint-Martin. Cela n'empêche pas évidemment la réflexion en haut lieu, l'État, la collectivité de réfléchir à cette reconstruction. Reconstruire pour affronter ce qui pourrait devenir bien sûr la norme à l'avenir, à savoir le passage de cyclones de plus en plus destructeurs au fur et à mesure que la planète se réchauffe. Avant Irma, le dernier cyclone hein, qui avait déjà fait de gros dégâts mais sans commune mesure avec Irma s'appelait Louis, c'était en 1995, il y a donc 22 ans. Il avait fallu tirer à ce moment-là les leçons de Louis. Celle d'Irma oblige à aller encore plus loin.
Alors on écoute votre reportage Véronique, où d'ailleurs on va tout de suite retrouver sur le terrain notre invité Philippe Gustin. Ce jour-là, vous visitiez monsieur un lycée professionnel.
Madame Balancier, proviseur adjoint,
vous êtes venue ?
Oui, effectivement.
Voilà, je précise.
Bonjour madame.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
Bon, vous avez sacrément travaillé, dites-moi. Tout ça est propre, hein ? Ah non, mais c'est génial, là. Vous êtes...
Cela fait trop de semaines qu'on se prépare.
Non, non, vous avez fait un boulot, mais exceptionnel.
Trop de semaines.
Vous imaginez dans quel état c'était ici. Puis la nature... La nature redémarre.
Ah, c'est fou.
Vous savez, moi je dis toujours cet exemple-là pour comprendre. Après Irma, il n'y avait plus une abeille sur l'île. Vous imaginez ? Tout ça était, les arbres étaient arasés, il n'y avait plus rien. Et là, ça redémarre. Ça redémarre. On le voit. C'était tout gris. Hein, vous voyez tout ce qu'on voit en vert, tout ça, ça redémarre.
Ça
repart très vite.
On va rapidement prendre l'étage, comme ça vous verrez, en direct.
Malheureusement. C'est un établissement qui a bien tenu, ce lycée professionnel ou pas. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est-à-dire, dans la reconstruction, il faut faire la même chose ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Puisqu'on réfléchit à quelle reconstruction après Irma.
En fait, le vrai sujet après, c'est des questions de normes. D'une manière générale, les établissements publics, hein, les écoles, ont plutôt bien tenu sur les 21 établissements qu'il y a. Il y a des faiblesses qui sont parfois aussi dues à des questions techniques. Hein. Concrètement, le cas de figure le plus fréquent des sinistres constatés, c'est que vous avez eu un impact dû à un arbre, à une voiture, sur une fenêtre,
un projectile
voilà, qui a fait exploser une fenêtre, et après le vent s'est engouffré à parfois 350 km/h et a fait exploser les toitures, vous voyez, a poussé les toitures, c'est ça, et c'est pour ça que vous voyez des tôles partout dans la nature. Et là, on avait des faiblesses naturellement sur les bâtiments publics qui avaient des verrières. Vous verrez tout à l'heure, on passera sans doute devant la médiathèque, qui était toute neuve, hein, inaugurée en 2014, avec des superbes verrières, elle a complètement explosé. Donc ça veut dire que dans les propositions que moi je serai amené à faire dans mon rapport, il y a aussi un guide des bonnes pratiques, un échange aussi de techniques pour faire en sorte que on ne refasse pas certaines bêtises qui ont conduit. Hein, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui ont mieux résisté que d'autres. Le fait de reprendre ce que les anciens faisaient, c'est-à-dire des toits à quatre pentes, vous limitez quand même le risque. Le fait de bien arrimer les tôles. Manifestement, dans les dernières années, on allait un petit peu vite, on clouait alors qu'il fallait les riveter. Enfin voilà, c'est des petites choses.
Et moins de baies vitrées, donc.
En tout cas, moins de baies vitrées complètes. Vous voyez, ce qui a le plus souffert, sont les bâtiments qui étaient en armature fer et verre. Style galerie commerciale, etc. Et puis ça s'est vraiment plié comme une crêpe. Hein. Le verre a pété, l'armature en fer s'est pliée et il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, il y a des normes, sans parler des normes qu'il faut avoir anticycloniques, antisismiques, sans parler des normes, il y a quand même, j'allais dire, des questions de bon sens. Voilà.
Ce bon sens, l'architecte Françoise Troplan l'a eu constamment à l'esprit pour la rédaction d'un rapport d'experts remis à la collectivité de Saint-Martin. Des pistes pour la future reconstruction.
Alors, ma première constatation, c'est qu'il faut qu'on arrête de suivre les modes. On est sur une zone spécifique où on a tous les risques. On n'a qu'à regarder un peu vers le passé. Notre héritage architectural, il nous vient de gens qui ont essuyé des cyclones et des séismes avant nous aussi. Donc, c'était pas des imbéciles quand même. Déjà, les Saint-Martinois, en général, ils construisent pas sur la plage parce qu'ils connaissent les cyclones. Vous voyez, donc il y a une culture du risque, de l'isolement, etc., qu'il faut reprendre. Ça sous-entend que, puisque ce sont des territoires qui attirent beaucoup de gens, que ce soit des gens qui viennent s'installer définitivement, qui soient de passage, il faut que la culture du risque soit visible. On s'est tous habitués à des risques, comme les risques routiers, avec des panneaux routiers, avec une signalétique visible. Et la signalétique du risque, elle n'existe pas. Elle existe au Japon, elle existe en Asie, dans beaucoup de pays, mais chez nous, elle n'existe pas. Or, pourtant, on pourrait très bien la signaler, ne serait-ce que la houle cyclonique. On pourrait avoir un trait, des bornes qui nous disent, au dernier cyclone, la mer est montée jusqu'à tel niveau, avec des bornes. Et quand quelqu'un viendrait pour acheter un terrain ou choisir de s'implanter quelque part, cette personne pourrait prendre un risque en toute connaissance de cause, en disant, ah oui, mais si je me mets là, je suis dans le périmètre de submersion marine du dernier cyclone.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. On a tendance à oublier, c'est vrai que ça fait 22 ans que Saint-Martin n'a pas eu de cyclone aussi fort. On a tendance à oublier. Les premières années, les 4-5 premières années, on tient compte du cyclone. Et puis après, on est toujours, vous savez, dans la tendance, dans la mode, il faut faire. Et c'est vrai qu'on a eu une mode de villas. Vous savez, ces belles villas qui se construisent en Corse avec des grandes baies coulissantes à galandage et tout ça. C'est tentant.
On a fait la même chose.
On a fait la même chose. Voilà. Mm. Bon, tout ce qui a été fait comme ça est éventré. Donc ça, c'est clair. On n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même région. Et c'est vrai que pourquoi les cases anciennes résistent ? Ce sont des structures finalement très monolithes avec un même matériau partout. Sous l'action du vent ou du séisme, l'énergie se propage de manière régulière et homogène. Et dès qu'il y a une rupture, qu'on passe d'un matériau à l'autre, ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Aujourd'hui, on a des assemblages. Alors, on a du béton, on a des parties bois, on a des parties métal, on a des parties en bardage, des faux plafonds, la malue. On a beaucoup, beaucoup de matériaux. Et toutes ces choses qu'on ramène en décoration pour donner un certain style, ce sont les premières choses qui partent avec le vent.
Qui font des dégâts, même en projection.
Des dégâts, des projections, des dégâts plus ou moins graves. Hein, ça peut blesser et tuer, ce genre de projectiles. Et puis, ça encombre les routes.
Donc ça, les leçons, c'est sobriété ?
Une certaine sobriété, je pense. Il faut y revenir.
La reconstruction, vous la voyez, quand on dit qu'il va falloir faire mieux qu'avant, et puis concilier aussi tous les risques, finalement, c'est possible d'abord de concilier tous les risques.
Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut mieux faire. On a une marge de main-d'œuvre. Bon. Moi, je dirais que si on reste sur Saint-Martin, il faut quand même regarder une carte et regarder à quoi ressemble Saint-Martin. Un relief très accidenté, des zones humides très importantes, et notamment un territoire avec deux langues de sable, si vous voulez, qui relient deux parties montagneuses.
Sandy Ground, c'est ça ?
Sandy Ground, Bennettley, en partie française, et de l'autre côté, la zone de l'aéroport de Juliana. Donc, de chaque côté, vous avez la mer, au milieu, vous avez une immense lagune. Il y a 25 ans, il n'y avait pas de construction de part et d'autre de ces bandes de sable. Aujourd'hui, il y a une densité, vous ne voyez presque pas la mer. Vous voyez la mer entre deux opérations, mais vous ne voyez pas la mer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il faut faire le grand saut. Le grand saut, c'est vraiment partir dans une modernité, une cohérence des choses, tout en se remettant dans le droit chemin de la bonne pratique et du bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ? Le bon sens, ce qu'on a eu tendance à perdre. L'histoire des baies vitrées, on le sait de toute façon, on le sait quand des fois on a des clients qui nous disent « Ah mais moi, si vous ne pouvez pas me faire une baie vitrée à 4,50 m, moi je vais voir ailleurs ». Alors on accepte ou on n'accepte pas, ou on arrive à convaincre le client que c'est pas faisable et que c'est pas sérieux. C'est très attirant, mais est-ce que c'est cela que nous devons construire ?
Une des particularités de Saint-Martin, c'est que les risques naturels y sont multiples, ce qui rend la reconstruction complexe pour Nicolas Pouget. Son cabinet d'expertise Explicite Caraïbes est basé en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Son métier, développer des stratégies d'adaptation au réchauffement climatique et encourager les énergies renouvelables.
D'une manière générale, aux Antilles, on est soumis à quasiment tous les risques naturels. Risque sismique, risque cyclonique, je vous passe les autres risques liés aux incendies, mais les risques associés au mouvement de terrain, inondation, submersion marine, ne manque que le risque d'avalanche pour avoir la panoplie complète. Et donc forcément, face à ces risques naturels qui sont présents au quotidien, on essaye autant que faire se peut d'en tenir compte dans la façon de construire. Face aux risques principaux, on sait que pour résister aux risques sismiques, il vaut mieux s'appuyer sur des structures plutôt souples, type construction bois, tandis que pour faire face aux risques cycloniques, il vaut mieux avoir recours à des constructions plus lourdes, type béton, qui résisteront bien mieux aux assauts du vent.
C'est contradictoire.
On est complètement sur des façons de construire qui peuvent s'avérer contradictoires. Alors sur la base du retour d'expérience des phénomènes notamment cycloniques et puis en tenant compte également de la présence forte du risque sismique, la tendance qui s'est dégagée, ce qu'on observe sur le territoire, c'est de prévoir des constructions mixtes avec une enveloppe plutôt souple qui peut s'appuyer sur la construction bois et en y aménageant à l'intérieur une cellule de protection qui sert de refuge en cas d'événement cyclonique. Donc plutôt en béton armé, avec un toit en béton qui permette aux habitants de se réfugier en cas de cyclone.
Quand on parle plus largement de la reconstruction des bâtiments aussi, est-ce qu'il faut faire dans le très coûteux, enfin, on imagine le costaud durable, ou est-ce que finalement, il va à Saint-Martin par exemple, il va falloir reconstruire souvent ?
Alors oui, évidemment, l'idéal ce serait de construire aux normes la meilleure façon possible en étant très scrupuleux dans le choix des matériaux, les techniques de construction, les techniques de mise en œuvre, en travaillant également sur la conception même des bâtiments.
Malheureusement, bons matériaux.
Voilà, avec des bons matériaux notamment. Et effectivement, c'est une des limites auxquelles nous sommes confrontés sur ces territoires, c'est que l'accès aux matériaux de qualité est rendu compliqué par le fait que le marché soit très éloigné des sources de fabrication et d'approvisionnement en matériaux de construction, ce qui génère des coûts d'approche extrêmement importants. On sait qu'en règle générale, construire un bâtiment de bonne facture pour un niveau équivalent à ce qu'on pourrait trouver en Europe ou en métropole génère des surcoûts de construction de l'ordre de plus de 30%. Donc vous surajoutez la mise en œuvre des normes de prise en compte des risques naturels, vous ajoutez de nouveaux surcoûts de mise en conformité, et l'un dans l'autre, comme pour tout choix d'investissement, et à un moment, le maître d'ouvrage fait un choix. Donc on fait forcément des sacrifices sur certains aspects, et malheureusement, bien souvent, c'est la sécurité du bâtiment qui peut en subir les conséquences.
Des zones sur l'île de Saint-Martin se sont révélées avec Irma particulièrement vulnérables au risque de submersion. C'est le cas ici, à Sandy Ground, coincé entre mer et lagon. Nous sommes avec Thierry, il est propriétaire d'une maison sur la plage. Il n'était pas là au moment du passage du cyclone. Il tente de sauver ce qu'il peut.
Non, ouais, ça, je vais peut-être le récupérer. Je vais surtout le
récupérer. On est chez vous, donc votre maison, ce qu'il en reste, on va dire.
Il en reste, vous voyez. Il reste 2-3 produits de nettoyage qui n'ont pas été pillés. La chambre, la salle de bain. Ça, c'est le niveau de l'eau.
C'est quoi? C'est un mètre, plus d'un mètre d'eau là.
1,20 m. Hein, ouais. Mais ça, c'est l'eau stagnante hein, qui est 1,20 m. Sinon, elle est arrivée là, vous voyez. La cuisine équipée, elle est partie avec la...
Ah oui, bon, il reste la haute qui a tenu. C'est tout, mais tout le plan.
Il y avait un placard.
Vous êtes à combien de là? Vous êtes sur la plage là?
Ouais, on est sur la plage.
Ouais, il n'ira pas plus bas.
Ça tombe toujours.
Ah ouais, vous êtes à 100 mètres quoi.
On est, ouais, ouais, 100 mètres. On est dans une zone qui n'était pas rouge d'ailleurs ici, cette maison.
C'est-à-dire constructible donc.
De toute façon, toute la zone là, a été constructible, il y a eu des permis de construire. Mais cette zone sur le plan d'inondation, elle n'était pas dans le rouge. C'est marrant.
Donc là, vous n'avez plus de toiture. Ça a été arraché.
Il n'y a plus de toiture.
Ouais.
Donc la mer et le vent ont réglé le problème. De toute façon, aucune maison n'a été épargnée, que ce soit à la montagne ou en bord de mer. C'est pareil. J'ai un ami, il a perdu toute une maison et qu'il est en hauteur. À Saint-Martin, la règle est difficile. En plus, on est sur une zone sismique. Et donc, voilà, c'est dur. Où est-ce qu'on peut construire maintenant? En montagne, on n'est pas à l'abri. En hauteur, on n'est pas à l'abri. C'est tout.
Si on vous dit, vous ne pouvez pas rester là, monsieur. C'était une zone rouge, ça va devenir, on ne sait pas, une zone noire.
Eh bien, pas de problème. On verra les conditions de l'indemnisation. Parce qu'on l'a acheté à un certain prix. On a investi beaucoup. On a vécu là 8 ans. On verra, mais effectivement, le problème, c'est le relogement. Moi, je viens qu'ils me disent de partir, mais je vais aller où? C'est le problème, un peu. En plus, je crois que la collectivité, elle n'a pas les moyens de rembourser les propriétaires. Il y a eu des permis de construire qui ont été établis il y a quelques années. Dans ce cas, il ne fallait pas donner les permis de construire, point barre.
Et si on vous dit qu'il faut un étage, j'en sais rien, il faut un abri?
Ouais, mais il faut avoir les moyens de le faire. Moi, si j'ai plus ça, qu'est-ce que j'ai? Je peux pas construire une autre maison? Je peux pas... Alors, je sais pas. Bon, écoutez, j'attends, on verra bien.
De vous-même, dans la reconstruction, quelle leçon vous tirez d'Irma? Par exemple, ce panneau roulant-là.
Oui, voilà. Donc ça, ouais. Ce sont des volets anticycloniques qui sont censés être très solides. C'est le plus solide du marché. Il n'y a rien qui a résisté. Donc, j'arrive pas à me projeter là, pour la reconstruction. Là, j'ai aucune idée. Moi, je pense que la seule protection qu'on peut avoir par rapport à la mer, ce serait éventuellement...
Un
enrochement ou une digue. Peut-être qu'on va demander aux Néerlandais, ils sont très bons pour faire ça. Et par rapport au vent, des toitures plus solides, il faut... Certainement, les normes vont évoluer, je suppose. On a déjà des normes assez strictes en matière antisismique et cyclonique. Et là, on est vraiment passé à un niveau supérieur. C'est-à-dire que ça n'a jamais été vu et voilà.
Ça vous dissuade pas de dire, tiens, allez, c'est peut-être pas l'endroit finalement.
Bah, comme je vous dis, à Saint-Martin, il n'y a pas d'endroit. Regardez, les étages sont partis. Là, vraiment, je ne saurais pas où aller aujourd'hui. Ou alors, dans une grotte.
Faudra-t-il reconstruire partout à Sandy Ground ou à d'autres endroits aussi sur l'île de Saint-Martin? Et comment? Pour sécuriser la population et les touristes de l'île.
Bonjour.
À cette question, le président de la communauté, Daniel Gibbs, répond en permanence lorsqu'il rencontre ses administrés en ville. Il n'est pas forcément d'accord avec l'État qui pourrait être tenté de faire du passé table rase. Daniel Gibbs.
Est-ce qu'on refait pareil? Certainement pas. Est-ce qu'on fait bien différemment? Peut-être pas non plus. Est-ce qu'il y a des curseurs à changer? Certainement. Saint-Martin a été pris en exemple sur un phénomène qui nous est tombé dessus, qui n'a jamais eu son pareil. Et donc, il faut prendre le temps de la réflexion pour analyser les causes réelles. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien gentil de dire « oui, mais c'est tombé parce que c'était mal construit ». Mais en même temps, il n'y a aucun produit qui a été mesuré à des vents de 400 km/h. On a atteint quand même du 420 km/h en rafale. Donc si aujourd'hui quelqu'un peut me démontrer qu'il a du matériau ou qu'il a une construction spéciale qui tient à ses vents, bravo, j'achète. Pour autant, ce territoire a subi déjà des secousses. Aux alentours, il y a eu des secousses. Il y a déjà eu plusieurs cyclones. Il y a des choses qui tiennent. Il y a peut-être à améliorer un certain nombre d'habitations et de bâtiments de construction, plutôt que d'aller tout de suite vers l'interdiction. Je dis ça sciemment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la collectivité est régie par l'article 74. En tant que président de collectivité, j'ai la compétence de l'urbanisme. Et que l'État a la compétence de l'environnement. Il est en la compétence de l'environnement. Ils édiquent les règles du plan de prévention des risques. Plan de prévention des risques, ça veut dire quoi très rapidement? Ça veut dire qu'il y a des zones aujourd'hui sur le littoral qui vont être classées en rouge. Rouge signifie théoriquement pas de reconstruction, puisqu'en zone de danger. Du fait...
La carte des aléas, c'est ça?
Exactement. Du fait qu'il y ait eu le phénomène de submersion que nous n'avions jamais eu avant, en tous les cas à cette échelle. Mais si c'est arrivé une fois, ça arrivera peut-être une seconde fois. Pour autant, il y a quand même des constructions qui ont tenu. Il y a quand même des bâtiments qui ont montré que c'était possible, plutôt que d'aller à l'interdiction, mais d'aller à l'amélioration. Voilà, tout un tas d'éléments qu'il va falloir analyser. Analyser avec les architectes locaux, avec les acteurs locaux qui connaissent bien le territoire, aussi les experts qui sont venus de l'extérieur, pour définir un certain nombre de critères qui nous permettront de définir exactement si il faut construire comme ci, s'il faut construire comme ça. Et ça sera aussi une partie des négociations, je ne vous le cache pas, parce qu'il va falloir aussi expliquer comment on ne peut pas reconstruire là où on est propriétaire et là où on a un permis de construire, et comment ça va se passer financièrement, comment ça va se passer au niveau du relogement.
Quand on dit, on entend, hein, si les réglementations quand même avaient été respectées, il y aurait eu moins de dégâts. En gros, si on n'avait pas construit les pieds dans l'eau, on n'en serait peut-être pas là non plus. Donc, moins de dégâts, moins de dépenses.
Moins de dégâts, moins de dépenses. Ce sont les dégâts et les dépenses privées. Ce sont des habitations, on est sur une île, avec très peu de kilomètres carrés.
Trop de l'axis, j'allais dire, dans les autorisations, des choses qu'il faut revoir maintenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, quoi.
On est sur une île touristique. Pourquoi? Parce que nous vivons, et notre économie est basée sur une mono-industrie qui s'appelle le tourisme. Et de ce fait, 95% de notre économie, 95%, est tournée vers le tourisme. Donc si on nous enlève la partie attrayante de notre tourisme, qu'allons-nous faire? Et comment allons-nous faire? C'est des questions auxquelles je me suis posé d'abord, mais que j'ai posé ensuite aux membres du gouvernement, en disant attention, les décisions que vous allez prendre vont avoir des répercussions certaines sur notre activité économique première. Quand le client quitte son territoire en hiver pour venir rechercher le soleil, il veut rechercher la plage, il veut rechercher la mer et il veut être toujours plus près. Voilà. Maintenant, il y a une façon de faire les choses différemment. Nous avons des règles dans le système français déjà qui sont contraignantes, qui est la bande des 50 pages géométriques et qui est la construction au-delà de cette bande, ce qui est aujourd'hui respecté.
À l'avenir, plus aucune structure fixe ne sera autorisée à être construite dans la zone des 50 pas géométriques, comprenez les pieds dans l'eau. Aucun restaurant sur la plage n'a tenu. Les hôtels, ayant bénéficié d'un permis de construire dans le passé, ayant mieux résisté aux assauts du vent et de la mer, pourront continuer leur activité sur place, mais avec quelques aménagements d'ores et déjà préconisés par le préfet Philippe Gustin, comme la condamnation de chambres au rez-de-chaussée. Ce jour-là, le préfet chargé de la reconstruction anime une réunion avec le secteur hôtelier, premier et quasiment seul secteur économique de l'île de Saint-Martin. Il est interpellé par un hôtelier.
D'ailleurs, sur l'aspect sécurité humaine dans les hôtels, je ne pense pas qu'on ait à relever de blessés ou de morts dans ces établissements.
C'est un des arguments que je mettrai en avant dans mon rapport.
J'ai des chambres au rez-de-chaussée. La police est venue me voir deux jours avant en disant « Vous êtes en zone d'inondation, il faut évacuer tout le monde ». J'ai pas évacué les gens, on a simplement, évidemment, là aussi avec du bon sens, fait en sorte que les gens soient pas en zone inondable, donc par rez-de-chaussée, aux étages. Et d'ailleurs, c'était mieux parce que sinon, il fallait qu'ils aillent dans des abris qui ont même explosé.
Exactement.
Donc, ils étaient chez nous dans des bâtiments plus solides que dans les abris.
Non, mais ça fait partie du retour.
Donc, il n'y a pas eu de mort dans
du retour d'expérience.
Non, on a des équipes expérimentées. On a vécu Louise, beaucoup d'employés ont vécu Louise. Depuis, on en a vu 5 sur un cycle jusqu'en 99 qu'on a tous vécu avec des destructions, bien évidemment mineures, mais à des titres ou d'autres. Et depuis, on a eu Gonzalo il y a 3 ans, on a eu Omar il y a 5 ans. On est compétent.
Avec le risque.
On vit avec le risque. Il faut faire très attention qu'on ne se retrouve juste pas avec une norme inadaptée, prise de Paris en plus.
Non.
Et un financement.
Philippe Thévenet, Association des hôteliers de Saint-Martin.
Tout à l'heure, se posait la question de savoir si on pouvait encore garder des chambres ras de mer, justement, c'est important, ça, ça veut dire, pour vous, c'est énorme.
Oui, c'est une question fondamentale. La vérité, c'est que si l'on supprime toutes les chambres du rez-de-chaussée, on supprime à peu près la moitié du parc. Donc voilà la question fondamentale, qui est de dire, il y a des mesures de bon sens, il y a des mesures intelligentes, il y a des mesures peut-être superflues, il y a des mesures qui sont peut-être intelligentes, mais qui seraient de toute façon inadaptées à des événements d'une gravité croissante, où est-ce que l'on va s'arrêter? Est-ce que l'on va devoir faire des blocos, des bunkers, que l'on va mettre derrière les collines, et à ce moment-là, on n'aura pas de clients? Où est-ce qu'on doit composer entre ces différents paramètres de rentabilité, d'exploitation, d'attente de la clientèle, de concurrence, car on oublie toujours dans ce genre de débat le fait que nous sommes dans un marché concurrentiel et que pour faire vivre le tourisme, il faut être compétitif sur les marchés.
Quand le préfet dit on peut faire mieux qu'avant, on va voir construire, mais ce sera mieux qu'avant et ce sera justement du développement durable. Ça, il y a une carte à jouer là-dessus, quelque chose qui ferait qu'aujourd'hui les touristes, le client, ils cherchent aussi ça. Est-ce que c'est pas l'occasion, à la fois qu'ils se sentent en sécurité, dans des endroits effectivement avec des normes peut-être supérieures. Comment vous voyez ça?
Oui, alors on peut toujours mieux faire. Et on va, au passage, améliorer un certain nombre de choses, ne serait-ce même que de notre propre initiative. On observe les marchés, on observe les clients, on observe leurs attentes. Il y a cette évolution, cet état d'esprit général du tourisme vert, on l'appelle un petit peu comme ça, même si l'expression nous décoiffe un petit peu. On n'est pas non plus totalement idiot, et on va essayer donc de mieux adapter, d'améliorer le produit au sens large. Ceci étant, l'amélioration réelle, c'est d'avoir de vrais services, c'est d'avoir une vraie offre. Ce n'est pas forcément de respecter tout un certain nombre de règles, c'est parfois purement théorique, le plus souvent d'ailleurs inadapté à notre situation géographique et objective, et inadapté à notre situation de concurrence. Le réchauffement climatique, l'accentuation de la gravité des phénomènes qui nous touchent, on en est tous responsables. Doit-on pour autant être contraint de se protéger seul contre les événements finalement dont on ne connaît pas où ils vont s'arrêter, hein, et à ce moment-là annihiler toute possibilité de développer une économie? Car à empiler les surcoûts, dont on sait bien qu'ils ne seront pas opérant si les phénomènes continuent de s'aggraver. Donc il ne sert à rien de vouloir se protéger en dépensant des fortunes contre les événements qui de toute façon nous dépasseront. Donc c'est toute cette équation qui est extrêmement complexe. On a un type de produit, hein, qui conduit à effectivement une certaine forme de vulnérabilité. On ne s'en protégera jamais totalement. Donc on vit avec, on fait avec, on sait faire. Simplement, il y a une part d'aléa qui, elle, est incompressible et sur laquelle on sait qu'on ne peut pas faire face. C'est là on fait appel aux notions de solidarité nationale et voire internationale. Ça doit aussi faire partie de l'équation.
Là, j'arrive à l'hôtel Mercure, on est à Sandy Ground. La mer est des deux côtés, on est sur une petite bande construite. Et la mer est de chaque côté. Et comme on l'entend, ça travaille, les gens travaillent à la, on va pas dire reconstruction pour l'instant, mais enfin à rendre l'endroit à nouveau habitable. Et on va aller voir le propriétaire, Baki. Savoir ce qu'il envisage éventuellement maintenant. On voit que pour l'instant, il est en train de mettre des rustines, d'essayer de mettre tout ça à l'abri de l'eau, de la pluie. Il y a des bâches sur le toit. L'endroit a été énormément détruit.
Je m'appelle Baki Arbia. Je suis le propriétaire de l'hôtel Mercure à Saint-Martin. Nous avons 180 chambres, dont une centaine sont encore utilisables après l'ouragan Irma. Disons que la structure des immeubles n'a pas bougé, nous avons 5 immeubles. C'est surtout les toits qui ont été, les immeubles ont été décoiffés, et surtout aussi beaucoup de bris de vitres. Mmh. Baie vitrée, à partir du moment où la baie vitrée brise, la tempête rentre dans la pièce et arrache le toit. Alors c'est ce qui est arrivé.
Il était évoqué hier dans une réunion entre le préfet, hein, qui a été nommé, hein, pour reconstruire l'île, et puis les hôteliers, la possibilité, il lui expliquait que peut-être il n'y aurait plus de chambre au rez-de-chaussée parce qu'il y a des risques d'inondation, de submersion. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Mais moi, je trouve que c'est une excellente idée, parce que vous savez, le souci d'un hôtelier, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité des gens qui reçoivent. Moi, ça ne me ferait pas perdre de chambre. Je ne suis pas concerné par certains, à vrai dire. C'est ceux vraiment qui sont construits sur le sable.
Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire de plus? On peut faire plus, parce que pareil, vous disiez hier qu'on a quand même un peu d'expérience, on sait où on habite, on sait qu'on est dans des zones potentiellement sismiques, des cyclones, donc on sait faire. C'est votre sentiment ou vous pouvez mieux faire?
Non, moi dans mon cas précis, par exemple, c'est à l'hôtel, ma décision a été prise de refaire les toits, mais je ne le referai plus en tôle, je vais les faire en béton. Les toits en béton coûtent exactement deux fois le prix. Moi, au lieu d'1 million pour faire les toits en tôle, le béton va coûter le double, 2 millions. Pour moi, c'est très important parce que c'est la sécurité, encore une fois, de mes clients. Ce qui est arrivé là, à 450 km à l'heure, ça pourrait revenir, comme ça peut arriver plus fort encore. Des toits en béton, j'ai la certitude de bureau de conformité qui me disent que c'est attaché à l'immeuble. Si l'immeuble, c'est antisismique.
C'est antisismique aussi.
Oui, c'est anticyclonique. C'est la sécurité parfaite, entre guillemets, hein, parce qu'on ne contrôle pas les aléas de la nature.
Dans votre construction, vous allez... Ça, c'est un des enseignements, par exemple.
Ah oui.
Et il y en a d'autres ou pas?
Dans mon cas, moi, vous savez, je suis... J'ai 66 ans, donc je veux dire, je suis très conscient là, de tout ce qui est écologique. Et l'hôtel va devenir un hôtel éco-vert, c'est-à-dire je vais produire ma propre électricité. Des photovoltaïques sur le toit.
Vous en avez déjà?
Oui, ça a été emporté bien sûr par le vent. Mais la nouvelle technologie, c'est des films collés sur les toits. Donc on aura plus de chance, ça dure. Dans mon cas, moi, je produis déjà ma propre eau. J'ai un puits où je puise à peu près 80 mètres cubes par jour. Je chauffe mon eau solaire. Donc là, en produisant l'électricité, cette électricité servira surtout pour l'éclairage et la climatisation.
Ah oui, vous êtes déjà, vous, dans ce que préconise le préfet chargé de la reconstruction, c'est on est dans le développement durable.
Dans mon cas, moi...
Vous jouez cette carte-là?
Ah oui, moi, je l'avais prévu dans ma tête déjà, et j'ai commencé à le faire depuis plusieurs années. Ah ben c'est sûr, c'est l'avenir.
Vous allez amplifier tout ça?
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, les clients américains sont très sensibles à ce genre de produits qu'on leur offre. Éco-responsable.
Donc Irma, c'est une opportunité d'aller très loin dans ce domaine.
Mais oui, mais absolument, c'est l'avenir, madame, vous savez.
Reconstruire aussi dans un souci de développement durable, une opportunité à saisir. Le Saint-Martin de demain doit impérativement s'inscrire dans une évidente transition énergétique. L'énergie de Saint-Martin, comme à Saint-Barthélemy, dépend quasiment à 100% de centrales thermiques gérées par EDF.
Je suis Sylvain Vidal, directeur d'EDF Archipel Guadeloupe. Et là, on arrive à la centrale de production d'électricité de Saint-Martin.
C'est une centrale thermique?
C'est une centrale thermique. Ça fonctionne au fioul.
L'électricité aura au final été remise rapidement en route là où les installations étaient enterrées. C'est un des enseignements d'IRMA, Sylvain Vidal.
Donc évidemment, les réseaux qui ont été les plus touchés, ce sont les réseaux aériens qui ont été extrêmement endommagés. Hein. Mais les réseaux souterrains ont aussi souffert à cause de l'eau, même du vent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les émergences, hein, les postes électriques au sol, ont été pour certains inondés, pour certains emportés par le vent. Donc je veux dire, les réseaux souterrains ont aussi souffert.
Ce n'est pas forcément la solution idéale.
Ce n'est pas la solution idéale, mais c'en est une, évidemment. Les réseaux aériens sont plus exposés que les réseaux souterrains. Donc il y a deux principaux enseignements qu'on tire. C'est qu'en effet, dans le programme de reconstruction qu'il faudra faire, donc là je me situe dans la reconstruction définitive, EDF sera aux côtés de la collectivité, de l'État, justement, pour... chercher des réseaux qui soient moins exposés à ce type d'événements climatiques, hein, et ça passe en effet par de l'enfouissement lorsqu'on le peut. Et puis un autre sujet auquel nous on est très attentifs, c'est essayer de transformer cet événement un peu en opportunité et en profiter pour développer des solutions plus économes en énergie, c'est-à-dire l'équipement, climatisation, matériel, tout ce qui consomme l'électricité, essayer de se doter de matériel qui soit plus performant, de manière aussi à ce qu'on soit dans une reconstruction vertueuse, ce qu'on appelle la transition énergétique.
Le plus vertueux étant, peut-être pas d'en finir, mais il y a une centrale thermique, hein, donc elle est alimentée avec des énergies fossiles. Est-ce que là, il y a une réflexion aussi vers plus de renouvelables, d'énergie propre, pour le coup, du solaire, ce qui paraît évident?
Alors, en effet, il y a cette réflexion-là, mais je pense que la première réflexion à avoir, c'est d'abord comment consommer moins. Et ce qu'on pense, c'est que c'est possible d'avoir une reconstruction qui nous permette d'avoir une consommation de 30% en 2023, 30% inférieure à celle qu'on avait en 2016. Donc ça, c'est le premier axe. Des exemples concrets, c'est par exemple, lorsqu'on reconstruit les toitures, isoler, ne pas mettre de la tôle à nu, mais isoler pour avoir un meilleur confort et que la clim fonctionne moins. C'est mettre des clims performantes. C'est utiliser des chauffe-eau solaires au lieu de chauffe-eau électrique, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'ensemble de leur matériel électroménager et climatisation qui a été détruit par le cyclone. Donc là, c'est évidemment l'occasion. Donc ça, ça nous paraît être le premier axe essentiel, qui est déjà de moins consommer. Le deuxième, en effet, c'est qu'on est sur une île sur laquelle il y a aujourd'hui très peu d'énergie renouvelable. Et là, ça peut être aussi l'opportunité de développer un parc photovoltaïque plus important, à la fois sur les nouveaux toits, les nouvelles toitures qui seront construites, mais aussi éventuellement sur des zones un peu délaissées, sur lesquelles il n'y a pas de reconstruction possible, et sur lesquelles on peut exploiter le terrain lorsqu'il ne peut pas être utilisé pour de la reconstruction. Sur les anciennes décharges, voilà, il y a sur des terrains qui, de toute façon, n'auront ni vocation touristique, ni vocation de construction.
Là aussi, il faudra convaincre le président de la collectivité de Saint-Martin, Daniel Gibbs.
Tout ce qui est énergie renouvelable, par certains aspects, on est preneur autant que possible. Les fermes photovoltaïques, non, pas nécessairement. D'abord parce que c'est une pollution visuelle. On est sur un petit territoire avec pas beaucoup d'espace. On a parlé de territoires aux États-Unis où il y avait des fermes entières, oui, d'accord. Quand j'ai demandé le minimum de mètres carrés, on m'a dit, je crois, 8 hectares. C'est quand même beaucoup de propriétés. Quand vous voyez la dimension de cette île, vous comprendrez que c'est quelque chose qui est un peu compliqué à envisager. J'ai expliqué qu'il y avait aussi l'éolien maritime, peut-être plus cher, mais moins visible et peut-être tout aussi efficace, à part le côté cherté pour la mise en place. Donc il y a une solution pour chaque territoire est spécifique. Nous, on n'a pas beaucoup de terrain disponible et c'est ce qu'on doit mettre en valeur également.
À la résidence du Grand Saint-Martin, 5 grands bâtiments tout près du port de Marigot, au toit recouvert de grandes bâches qui claquent au vent, on est prêt à faire ce saut dans le développement durable, à être plus économe en énergie. Nico est l'un des gérants du Grand Saint-Martin.
Il faut savoir que cet immeuble, c'est un immeuble de défiscalisation, c'est-à-dire vite fait, mal fait, pas cher et tout le monde se gave. Nous, on n'est plus dans cette logique-là. On n'attend pas grand-chose, en fait. On se prend en charge. On réfléchit maintenant sur tout ce qui est économie d'énergie. On a la chance d'avoir sur l'île depuis des années, on est en contact avec des architectes qui eux nous conseillent. Et les gens qui arrivent un peu de Martinique, de Guadeloupe, de métropole, nous amènent en fait des qualités de matériaux, d'abord dont on ne soupçonnait même pas l'existence, et qui sont des matériaux comme des verres Saint-Gobain intelligents, qui permettent de réfléchir le soleil, qui permettent aux appartements de nécessiter moins de climatisation. On va pratiquer des ouvertures avec des nacos, on va se servir de la ventilation naturelle. On va essayer de rendre nos immeubles les plus économes possibles en énergie. Alors la chance, c'est qu'on a les moyens de nos ambitions. On a dans cette résidence des copropriétaires qui ont bien réussi dans la vie, qui ont des moyens. Et à partir de là, on va s'affranchir un petit peu des contraintes budgétaires que la plupart des copropriétés ont.
C'est pas le cas de tout le monde.
C'est pas le cas de tout le monde. Irma était un peu un révélateur pour beaucoup de gens qui pensaient qu'on pouvait faire vite fait, pas très bien fait, à pas trop cher, et puis ça tiendrait, et puis ça conforterait la rentabilité. En fait, nous, dans notre immeuble, c'est un petit peu tout le contraire, en fait. On préfère payer très très cher, mais en prendre pour 50 ans, être peinard, avoir nos locataires en sécurité, et puis un immeuble qui est absolument pas coûteux à entretenir, qui est pas dépensier.
Reconstruire, à quel prix et pour combien de temps si demain l'intensité des cyclones et leur fréquence viennent à augmenter, comme le prédisent les climatologues. Jusqu'où ira l'adaptation évoquée dans les sommets climatiques comme celui de Bonn en ce moment? Jean Arnel est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Martin.
On ne va pas faire déjà ce que suggèrent certains de déserter l'île de Saint-Martin et d'aller nous installer dans une petite ville qui s'appellerait Saint-Martin-d'Irma, quelque part en métropole. Non, il faut que l'on puisse, premièrement, avoir une estimation du coût de reconstruction. Les phénomènes climatiques tels que celle-ci et les phénomènes liés au réchauffement climatique, on a beaucoup de difficultés à estimer leur fréquence. On dit que ça sera de plus en plus fréquent. Le dernier cyclone de ce type qu'on a eu, de plus en plus fort, c'était le cyclone Louis en 1995. Et l'île a pris 3 à 5 ans pour reprendre un train normal en termes d'activité économique et en termes d'activité de vie. Donc la question qu'on se pose, si on a ces phénomènes de plus en plus fréquemment, avec un coût qu'on connaît, 4 milliards de dégâts à Saint-Martin. Donc, est-ce que notre PIB, qui est d'environ 2,5 milliards dans la partie française et hollandaise, permet de faire 4 milliards de reconstruction tous les 2 ans, tous les 3 ans? En tout cas, il serait intenable pour ce territoire d'avoir à refinancer la reconstruction, même étant assuré, parce que les primes d'assurance vont sûrement augmenter l'année prochaine, même étant assuré, ce sera difficile pour ce territoire de reconstruire tous les 5 ou 6 ans. Mais le dernier phénomène, comme je vous ai dit, de ce type, c'était il y a 22 ans. Donc, on ne va pas faire des probabilités extraordinaires. Il y a eu des cyclones de puissance importante depuis que Saint-Martin existait.
Ça voudrait dire à terme, en tout cas, peut-être, on ne sait pas, un territoire inhabitable. On n'en est pas là ?
On n'en est pas là. On a de plus en plus d'inondations en Angleterre, en France métropolitaine. Je vous ai parlé du Languedoc tout à l'heure. Personne n'a parlé d'évacuer ces zones ou d'exode massif.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, Reconstruire Saint-Martin, les leçons d'Irma. C'était un reportage de Véronique Rebérotte réalisé par Annie Brault. Et nous sommes toujours en compagnie du préfet Philippe Gustin. Vous êtes chargé par le gouvernement de réfléchir à la reconstruction de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. On va d'abord peut-être parler gros sous pour commencer, puisqu'on vient d'entendre le président de la Chambre de commerce et d'industrie évoquer ce chiffre de 4 milliards d'euros de coûts de reconstruction. C'est ce qu'il avance. La Caisse centrale de réassurance, je crois, a chiffré ça plutôt autour de 1,2 milliard d'euros. Est-ce que vous-même, vous faites une estimation? Et peut-on d'ailleurs déjà faire une estimation?
L'estimation est en cours. Elle a été demandée dès le lendemain d'Irma à l'inspection générale de l'administration. Et ce chiffre est très important parce qu'il permettra d'ouvrir après la demande auprès de la Commission européenne au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne. Donc je ne vous donnerai pas de chiffre aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette? Est-ce qu'on est autour de 1 ou 4?
On sera sans doute plus près des 1 que des 4. Ça, c'est certain. Parce que je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a d'une part ce qui relève des effets d'Irma, et puis il y a ce qui relève, surtout dans la bouche des Saint-Martinois, d'un rattrapage nécessaire par rapport à un retard qui pouvait être constaté avant Irma. Donc il faut vraiment faire la part des choses.
Retard en matière de quoi?
En matière d'infrastructure, je pense en particulier à l'eau. Et vraiment, là, sur l'eau, on sait très bien qu'on avait des réseaux qui étaient fatigués, qui avaient été conçus. N'oublions jamais, hein, Saint-Martin, population quadruplée en 18 ans, entre 1982 et 2000. Et
pour autant, sont maintenant 35 000 à peu près.
35 000, ouais. Oui, enfin, on a du mal aussi. Comme on n'a pas d'éléments statistiques, on ne peut pas dire s'il y a 35 000 ou 45 000 habitants. Mais toujours est-il qu'il y a eu une augmentation. Il y avait 8 000 habitants en 1982, ça c'est certain. Et donc on a eu une augmentation très forte avec des réseaux qui n'ont presque pas bougé, qui vieillissent mal aussi parce qu'on est outre-mer et que les conditions climatiques sont ce qu'elles sont.
Une question de Véronique Revaute.
Alors, une nécessité aujourd'hui de reconstruire autrement face à ces aléas climatiques. Alors, on l'a entendu déjà, on vous a entendu donner quelques préconisations dans le reportage. Vous en êtes toutes de vos réflexions. D'abord, il y aura des zones où on ne pourra pas reconstruire sur Saint-Martin?
Ah, il y a des zones où on n'aurait pas dû construire. Je crois que ça commence par là. J'ai bien aimé, moi, à plusieurs reprises, le terme qui a été employé de bon sens. Voilà, il y a du bon sens à avoir, tout en étant conscient aussi que les choses ne doivent pas obligatoirement être calquées sur ce qui se passe à Paris ou ailleurs. Parce que si on devait regarder ce qui se passe à Paris, avec une crue du type centennal 1910 qui arriverait, je ne sais pas si vous seriez ici dans cette maison-là aujourd'hui. Donc voilà, il faut aussi que raison garder.
Cet étage-là, oui.
À cet étage-là, oui, mais vous auriez pas, vous auriez les pieds dans l'eau, en tout cas, peut-être que jusqu'au premier étage. Donc voilà, on a construit aussi un peu partout en France, à des moments où il n'y avait pas de prise de conscience de ça. C'est la même chose aussi à Saint-Martin. Mais Saint-Martin cultive les handicaps, parce que, en fait, c'est une île, sur la partie française, 50 km², donc c'est tout petit, c'est la moitié de Paris. Et avec, ça a été dit à un moment dans le reportage, avec un relief qui est très accidenté, et puis une vocation, une industrie, une mono-industrie qui est celle du tourisme. Et quand on va passer des vacances à Saint-Martin, c'est pas pour aller dans les montagnes, hein, c'est pour aller au bord de l'eau.
D'où votre carte des aléas, alors
qu'est-ce qui va se passer? Une carte des aléas qui prendra en compte aussi
cette approche économique. Aujourd'hui, cette carte d'aléa, elle est en cours de constitution, elle est d'ailleurs finalisée. Elle va être portée à la
Commission. Il y a des zones noires, qu'est-ce qui
non,
se passe
non. Le terme de zone noire, moi je le réfute parce qu'il n'a aucune constitution juridique. On a déjà aujourd'hui un plan de prévention des risques naturels qui est très clair. On sait exactement où sont les risques. Ce qu'a fait Irma, c'est qu'il a amplifié ces risques. Vous donner une chose très concrète, on avait des vagues qui avaient été mesurées à 2 mètres, elles ont pu aller jusqu'à 4 mètres. Mais à 2 mètres, vous mourrez déjà, hein. Donc vous mourrez doublement, mais ça suffit déjà une fois. Donc en fait, là aujourd'hui, on
mais
a...
Mais est-ce que vous mourrez deux fois plus loin ?
Non.
Non.
Non, non, non. Ça, c'est il y a eu une entrée et une vague de submersion qui a pu aller plus loin, mais pas beaucoup plus loin en fait. Hein. C'est la violence en tout cas de l'événement, la violence du vent, ça a été répété à plusieurs reprises, même si on est allé peut-être un petit peu loin dans ce qu'on a dit dans le reportage, on est plutôt sur des 350-360 km/h, mais c'est déjà largement suffisant et surtout la durée.
Véronique m'avait dit 400 km/h pour certaines rafales, c'est ce qu'on entend sur place, mais ça fait partie peut-être des rumeurs sur place.
À partir d'un certain moment, on ne sait plus mesurer puisque ça ne fonctionnait plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a, du côté de l'État, qui a la compétence environnement, on a déjà élaboré un plan de prévention des risques naturels qui est là, qui est sur la table depuis 2011, ça fait 6 ans.
Et qui n'était pas respecté.
C'est pas qu'il n'est pas respecté, c'est qu'il devait être décliné par la collectivité qui en a la compétence, par un règlement d'urbanisme, qu'on appelle le plan local d'urbanisme ou qu'on l'appelle autrement, moi ça m'est égal puisque c'est la collectivité qui a la compétence en matière d'urbanisme et ce plan local d'urbanisme il doit permettre de définir après les zones constructives, les zones qui ne le sont pas en s'appuyant sur ce PPRN et de définir aussi au-delà de ça des normes parce qu'il y a dans certains endroits, en particulier sur le volet touristique où on peut définir des zones d'intérêt stratégique, l'économie c'est une mono-industrie touristique, on peut construire des hôtels ou reconstruire des hôtels dans des zones qui sont à risque, mais à ce moment-là, deuxième élément, en prenant toutes les mesures nécessaires
de sécurité
pour se protéger en cas de survenance d'un cyclone. Parce qu'encore
mais
une
quand
fois,
vous, quand vous soulignez justement, monsieur, excusez-moi, que ce sont que c'est la collectivité territoriale qui finalise finalement le plan d'urbanisme local,
oui.
Est-ce que ça veut dire que vos préconisations ne seront pas forcément entendues? On imagine, on a d'ailleurs entendu,
faits, oui.
Hein, on a entendu monsieur Gibbs dire à plusieurs reprises que bon, il était peut-être un peu en désaccord avec certaines idées que peut avancer l'État.
Oui, vous soulignez vraiment le point le plus compliqué de ma mission, c'est qu'aujourd'hui, si chacun reste dans ses compétences, il ne pourra pas en aller autrement, puisque l'État ne pourra pas se substituer à la collectivité. La seule manière d'avancer, c'est d'avancer dans un partenariat intelligent et réfléchi. C'est ce à quoi nous nous attelons. La visite du Premier ministre lundi dernier, vous savez, c'est conclu par la signature d'un protocole, déjà avec un premier volet sur les aspects financiers, c'est-à-dire comment l'État vient au secours de la collectivité pour qu'elle puisse vivre. Et il y aura un deuxième volet que je vais aller négocier dès demain, puisque je repars à Saint-Martin demain et j'y serai lundi après un petit séjour en Guadeloupe, pour négocier le deuxième volet qui portera justement sur la coopération, le partenariat, chacun dans sa compétence, j'insiste bien, on peut fonctionner ensemble pour définir ce Saint-Martin de demain.
Et c'est vous qui avez le dernier mot sur les permis de construire ?
Non.
Ah, je pensais que au
titre
aviez...
du contrôle de l'égalité.
Au titre du contrôle,
bien sûr,
de... Ouais,
du contrôle
bien sûr.
De l'égalité. Mais disons la vérité. Concrètement, il y a deux fois moins de permis de construire délivrés à Saint-Martin qu'à Saint-Barth, alors que la population y est quatre fois plus importante. Vous êtes allé à Sandy Grand. La plupart des maisons qui sont construites à Sandy Grand ont été construites, et pas seulement à Sandy Grand. Je ne veux pas stigmatiser ce quartier plus qu'un autre.
Ce sont des autoconstructions.
Ce sont des autoconstructions ou des constructions libres, parfois sur des terrains qui n'appartiennent pas à celui qui a construit, et en tout cas sans permis de construire. Et même s'il y a un permis de construire, vous avez rencontré une architecte. Moi aussi, je les rencontre à chaque déplacement parce que ce sont des acteurs fondamentaux. Et tout ce qu'a dit l'architecte, là, je peux signer, là, en bas de la page, je partage, mais à 110 000% ce qu'elle a pu dire. Eh bien, on voit bien que même s'il y a des plans qui sont faits par des architectes, il s'avère qu'en bout de course, la maison, elle ne ressemble pas obligatoirement au plan. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est bien de se doter de règlements, mais il faut les faire respecter après. Et aujourd'hui, l'enjeu, il va être là, c'est derrière de mettre en place, et c'est la collectivité qui sera à faire, une vraie police de l'urbanisme et de la construction pour veiller à ce que les règles soient respectées.
Mais comment faites-vous pour forcer la main, entre guillemets, à ces collectivités territoriales si elles ne souhaitent pas le faire ? Est-ce que c'est
en ayant ce discours qui est parfaitement raisonnable et qu'on entend, que vous comptez les persuader, ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra baisser les bras parce que finalement, ils autoriseront à nouveau des constructions sans permis ?
Moi, encore une fois, si j'ai accepté cette mission quasiment impossible, c'est que j'espère que le bon sens l'emportera, que la raison l'emportera. C'est aussi des négociations qui sont aussi dans une logique de donnant-donnant, je le dis aussi clairement. Nous devrons apporter un soutien financier à la collectivité. En contrepartie, eh bien, il faudra aussi trouver, je le répète, dans le droit et dans le respect des compétences de chacun, les voies et moyens de construire ensemble et de reconstruire ensemble. Parce que derrière, ce qui relève de tout ça, c'est quand même l'intérêt général.
Oui, Véronique Reverot.
Un mot sur le tourisme, mono-industrie de Lille. L'économie dépend à 95% du tourisme. Là aussi, il va falloir faire preuve, alors pour le coup, d'un peu de tolérance avec ces hôtels, les pieds dans l'eau, vraiment. Enfin, on ne peut pas être plus près de la mer.
La reconstruction, c'est pas seulement des tôles et des bouts de bois ou des portes, des fenêtres. C'est aussi réfléchir à quelle économie on veut pour cette île. Parce que le tourisme, quand même, il allait pas très très bien à Saint-Martin avant Irma. En tout cas, le tourisme traditionnel. 3000 chambres d'hôtel perdues en 10 ans, avec une concurrence très forte. Mais c'est pas seulement à Saint-Martin, hein, parce qu'on a une évolution complète des logements saisonniers, je ne vais pas donner un nom de marque, mais on se comprend tous. Induit et renforcé en plus à Saint-Martin, ça a été dit très très bien par vos intervenants, vous les avez très bien choisis, félicitations, par la défiscalisation, par la volonté d'un rendement rapide de gens qui ne résident pas à Saint-Martin, qui sont souvent des gens comme vous et moi, ici, en métropole, qui ont investi au titre de la fiscalisation et qui veulent le rentabiliser en le louant de manière saisonnière. Et donc, aujourd'hui, moi, ma question, elle est toute simple. Dans un monde concurrentiel, y compris là, tout simplement, dans les Antilles, dans les Caraïbes, avec de nombreuses îles aux alentours qui n'ont pas nos réglementations, comment est-ce que le tourisme demain, et pourquoi viendra-t-il à Saint-Martin plutôt qu'aller ailleurs ?
Et c'est la deuxième partie de votre...
Ah ben moi, c'est mon
dada.
Credo, c'est mon dada. Et je suis très heureux d'avoir entendu plusieurs de vos intervenants partager ce dada. C'est-à-dire concrètement, ce qui fait la différence aujourd'hui, quand vous êtes un touriste lambda, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel vous passez vos vacances. C'est peut-être pas obligatoirement une chambre d'hôtel. Donc il faut réfléchir comment est-ce que les hôtels peuvent évoluer aussi pour apporter une réponse très claire. Moi, je le dis tout le temps de manière très triviale. Le touriste d'aujourd'hui... Il veut avoir le même environnement que chez lui, en mieux. Voilà, il veut se sentir bien. Et il est de plus en plus attentif, y compris le touriste américain, ça a été dit dans votre reportage, puisque c'est beaucoup des touristes qui viennent d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud de plus en plus. Ils sont très attentifs à l'environnement. Et là, Saint-Martin a une carte à jouer. Si vous êtes allé sur l'île, vous êtes allé aussi du côté néerlandais, où il n'y a aucune règle. Vous avez vu à quoi ça ressemble.
Et vous pouvez nous dire, parce que nous, on n'a pas vu.
Ah ben, c'est un urbanisme débridé, avec des hôtels de 10 ou 15 étages, qui ne tiendront pas très longtemps. D'abord, ils n'ont pas bien résisté parce qu'ils sont en carton-pâte, mais ils résisteront encore moins le jour où interviendra un séisme avec une magnitude de 5 ou 6 ou 7 sur l'échelle de Richter.
Ce
qui est un risque réel, puisqu'on a aussi le risque sismique, on l'oublie trop souvent. Là, on voit qu'on peut critiquer l'État, la France, avec sa suradministration, sa surréglementation. Mais ça se voit à l'œil nu quand on passe une frontière qui n'existe pas. Vous avez d'un côté un environnement qui a été plutôt préservé, c'est Saint-Martin, et de l'autre côté, vraiment quelque chose qui est purement et simplement impossible, et qui est dangereux d'ailleurs, hein, puisque ça peut s'écrouler à tout moment. Donc voilà, moi, pour moi c'est très important, cette carte que Saint-Martin a à jouer aujourd'hui, et le train ne repassera pas une autre fois, à jouer pour justement être un modèle au sein des Outre-mer, mais aussi au sein de la République. Parce que des zones à risque, il y en a ailleurs, hein, dans la République.
On peut même parler simplement de rattrapage, de transition énergétique.
Il faut en profiter en même temps.
Voilà, on peut en profiter. Mais on est en retard, on est d'accord qu'on n'est pas non plus dans quelque chose de...
Non, mais moi j'ai là aussi bien retenu les questions financières. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, oui, ça va coûter. Bien sûr que ça va coûter. Est-ce que ça va coûter plus cher? J'en suis même pas sûr. Moi, je passe mon temps à recevoir des experts parce que je suis submergé de propositions miracles, hein, et donc dans l'eau on fait un petit peu le tri. On en reçoit de très intéressantes, en particulier émanant de petites PME françaises qui ont bien des idées sur les sujets. Donc je suis même pas sûr que ça coûtera plus cher, mais en tout état de cause, ça sera très vite rentabilisé. Parce que si on se paye un cyclone comme ça, pardon, tous les deux ou tous les trois ans maintenant avec le réchauffement climatique, vous imaginez la facture chaque fois.
Donc, mais qui il vaut va mieux mettre l'argent? Parce qu'on est tous, on peut tous... Alors, même si le président de la collectivité, Daniel Gibbs, est un peu réticent sur certains points, en tout cas, notamment sur cette transition énergétique. Mais qui va financer? Parce qu'on sait que c'est... Il y a un retour sur investissement, mais
bien
c'est
sûr,
cher, oui.
Bien sûr, mais on aura un mixte hein, en termes de financement. On aura naturellement ce que l'État pourra donner, ce que le privé pourra donner, ce que l'Union européenne pourra donner et ce que la collectivité devrait donner. Voilà, donc il y aura, pour l'ensemble et surtout pour les réseaux, il y aura cette nécessité, y compris avec les prestataires historiques, vous l'avez entendu avec le directeur régional d'EDF, ce souci en tout cas de ne pas investir n'importe comment, parce que eux aussi, la facture sera très élevée pour eux ou pour leurs assurances, et ils ont intérêt à ce que ça fonctionne et que ce soit résilient. Je sais que ce terme est un peu barbare, mais ce qui est terrible, c'est que c'est pas seulement le cyclone qui a été un choc, c'est le fait aussi d'être resté plusieurs jours sans électricité, sans eau, sans télécommunication. Et ça, c'est inadmissible.
Le temps de latence.
Ouais. Ça, c'est une des pistes de travail que vous aurez à faire. On va dire un mot, mais il nous reste que 30 secondes. Vous rendrez votre deuxième rapport, vos pistes de travail, dans un petit mois ou un peu plus?
Ah non, avant. D'abord, le premier rapport n'a pas été encore rendu public, il le sera. Et puis, il y aura les deux volets que j'expliquais, le premier volet financier et le deuxième volet sur un partenariat pour une reconstruction durable et responsable.
Eh bien, on va suivre tout cela. Merci beaucoup, Philippe Gustin, d'avoir participé à ce magazine de la rédaction Reconstruire Saint-Martin, les leçons d'Irma, reportage de Véronique Reberotte, réalisé par Annie Brault. Merci à toutes les deux, ainsi qu'à la technique ce soir à Emmanuel Morse d'Incan. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission dès demain matin, la podcaster et la commenter sur notre site franceculture.fr.